franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
85 cadavres de dauphins ramassés depuis jeudi, donc sur les plages de Charente. Un triste record en moins de 2 jours. Que sait-on des échouages? Question donc posée à la une de la science.
Ce sont des animaux qui perdent un petit peu leur ce qu'on appelle l'écholocation, c'est-à-dire leur système de sonar, le système qui leur permet de se diriger. C'est normal que quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de grosses mers, ça nous ramène des cadavres sur nos plages.
Voilà, c'était la voix de Christiane Anselme du réseau Échouage France qui réagissait au micro de France Inter. Donc ce matin, les côtes françaises qui reçoivent environ 1000 cadavres de cétacés tous les ans, dont plus de 800 qui nous viennent des côtes atlantiques. D'où viennent donc ces échouages? On en discute avec vous, Olivier Adam, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes bioacousticien et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Et comme tous les lundis avec nous, Hervé Kempf, notre partenaire pour le magazine reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Que sait-on aujourd'hui, Hervé, de ces échouages de ce week-end? De quoi sont morts ces dauphins, on n'en sait plus ou pas?
On ne le sait pas encore tout à fait officiellement parce qu'il faut poursuivre les analyses de ces corps, de ces cadavres. Il y a une forte possibilité que ce soit lié à la pêche, c'est-à-dire à des captures par des filets de pêche profonds, puisque c'est une des causes fréquentes de ces échouages qui arrivent maintenant quand même fréquemment. La pêche est un principal cause, mais il y a aussi, ça peut être des morts naturelles, ce qui arrive quand même souvent. Ça peut être effectivement des perturbations du système d'écologie. Location. Alors, durant les grandes tempêtes, mais aussi par des sons d'origine humaine sous-marin qui deviennent de plus en plus fréquents, voire même par des tempêtes solaires, comme on va le voir. C'est un phénomène qui n'est pas seulement français. Très récemment, par exemple, en Algérie, il y a aussi eu des échouages de dauphins. Et puis, en Grande-Bretagne, on recense près de 2000 aussi échouages chaque année de cétacés.
Olivier Adam, alors là, vraisemblablement, c'est peut-être la pêche. Quelle est la part des hommes dans ces échouages? On arrive vraiment à tirer des proportions?
Alors, il y a des échouages partout dans le monde. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les côtes, il y a des échouages. Et en fait, il y a plus d'une dizaine de raisons d'échouages. Alors évidemment, celles qui nous intéressent les plus, ce sont celles qui sont provoquées par des activités humaines, parce que on est dans la mesure d'essayer de faire en sorte qu'elles soient le moins nombreuses possible. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'efforts, notamment en France, faits par les gouvernements successifs, que ce soit depuis Dominique Ouanet, Monsieur Borloo, Ségolène Royal, sur le Grenelle de l'environnement, le Grenelle de la mer, la mise en place de sanctuaires ou d'aires marines protégées. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Et le travail exceptionnel que fait le réseau d'échouage français, qui recense en fait tous les cétacés qui sont sur la plage, nous permet d'y voir plus clair sur les raisons pour lesquelles les cétacés viennent s'échouer.
Quand on trouve une carcasse sur une plage, c'est vraiment facile de définir la cause de la mort de l'animal?
C'est pas facile, mais le réseau d'échouage fait des mesures, déjà identifie l'espèce, parce que il y a plus de 80 espèces de cétacés et elles vont toutes avoir des raisons différentes de s'échouer. Donc identifie l'espèce, identifie l'individu, font des mesures et puis font des prélèvements, des biopsies, de peau ou de graisse pour savoir par exemple si c'est une pollution chimique qui pourrait en être l'origine. Et par exemple, dans les motifs d'échouage en France, certains sont effectivement ce qui va être des interactions directes avec les pêcheries. Donc là, c'est si j'ai bien compris, pour les dauphins qui viennent de s'échouer, c'est l'hypothèse numéro 1 à l'heure actuelle, mais peut-être ça va être différent plus tard. Et puis, il y a aussi les collisions avec des bateaux, comme il arrive assez souvent en Méditerranée ou dans les Canaries, enfin voilà. Et puis, il y a aussi la pollution chimique avec les métaux lourds. Il y a une étude qui est sortie, par exemple, de l'excellent travail qui a été fait dans le Cotentin par le GIEC sur les dauphins de Cotentin, où en fait on s'aperçoit qu'ils sont blindés de métaux lourds et donc probablement va fragiliser leur santé et leur reproduction.
Alors la NASA a dévoilé hier, c'est un hasard, un programme de recherche qui vise à éclaircir le lien entre certains échouages et des éruptions solaires. Vous trouvez ça sérieux?
Alors c'est intéressant parce que c'est une nouvelle hypothèse, comme s'il fallait en rajouter une autre pour pouvoir avoir une raison des échouages. Après, toutes les hypothèses sont envisagées, pourquoi pas celle-ci? La difficulté, c'est que d'après ce que indique la NASA, c'est qu'il pourrait y avoir des perturbations électromagnétiques et qui pourraient venir perturber le système de repérage des cétacés dans l'eau. Il va falloir, je pense, aller un petit peu plus loin. Ils sont prudents dans les conclusions qu'ils indiquent. Ils disent qu'ils commencent à travailler et que c'est une alternative qui pourrait être envisagée, mais ils restent extrêmement prudents. Et moi, je le serais aussi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les éruptions solaires en fait, elles sont non-stop, et que de blâmer le soleil pour ça, ça me semble assez étonnant. Je pense que si jamais c'était avéré, ça serait quand même inférieur à toutes les activités humaines. Le bruit qu'on génère dans l'eau, le trafic qu'on fait, etc., pour la raison des chauffages. Et deuxièmement, le système électromagnétique, les cétacés se repèrent avec le son, utilisent l'écolocalisation, là, comme la personne l'avait dit avant moi. Au niveau magnétique, je sais pas dans l'eau quelle la part on va leur, ils vont utiliser pour se repérer, quoi, et pour se déplacer.
On sait comment la NASA va faire pour, enfin, les scientifiques vont faire pour vérifier cette hypothèse, donc, des éruptions solaires, Olivier Adam?
Et ils vont faire une corrélation entre les jours d'échouage et puis les activités solaires, une semaine ou deux jours ou trois jours à l'avance. C'est comme ça que je pense qu'ils vont démarcher. Mais l'intérêt des Américains, c'est qu'ils sont, ils travaillent directement avec des biologistes, ils travaillent avec des cétologues, ils travaillent avec des gens de terrain. Mmh. Ils vont regarder les échouages, et ça, c'est très fort, parce que si on laisse la NASA travailler tout seul dans leur coin, on pourra toujours trouver une corrélation. Quoi qu'il arrive, moi, je peux vous corréler le nombre d'échouages avec le nombre de Twingo vendus en France. Mais à partir du moment où on est en prise contact avec les gens qui sont des experts des cétologies, oui, de cétologie, là, par contre, on est obligé de confronter les hypothèses à eux, leur expérience de terrain et leur savoir et leur connaissance sur les cétacés. Et là, c'est beaucoup plus délicat de conclure. C'est très important sur ces sujets-là, comme les baleines, d'avoir des experts de différents domaines pour pouvoir travailler et émettre les hypothèses les plus fines.
Est-ce que des pertes de repères ou des problèmes de navigation peuvent vraiment entraîner la mort d'un animal?
Oui, alors en fait, c'est une hypothèse qui est... Dans les causes naturelles, c'est des hypothèses qui sont avancées. Ça peut être la vieillesse, tout simplement, parce que les cétacés sont en fin de vie, qu'à un moment donné, ils n'ont plus l'énergie ou le courage de se dépasser. Ça peut être la santé, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui doivent forcément être plus fragiles que d'autres, ou alors qui se sont moins alimentés dans les derniers jours ou dans les derniers mois, ce qui les fragilise. Donc là, toutes ces causes naturelles sont évidemment à envisager. Et une fois que par exemple, en France, sur les côtes françaises, il y a des rorquals communs qui ont été qui se sont échoués, et la raison première avait été indiquée comme famine. Et en fait, la concurrence directe avec les pêcheries, la pêcherie industrielle notamment, elle est juste, elle est évidente, parce que c'est les mêmes ressources sur lesquelles s'alimentent les cétacés que nous.
Alors, Hervé Kemp, une dernière question.
Il y a aussi vous le citiez rapidement, l'activité humaine, notamment par la génération de bruits sous-marins qui deviennent très puissants pour des applications militaires, pour des recherches pétrolières, pour de la recherche de bancs de poissons aussi. Est-ce que ça a un effet maintenant qui est bien avéré?
Alors exactement, la communauté scientifique s'est très structurée depuis les dernières années, justement pour observer les effets, les impacts des activités humaines sur les cétacés. Alors c'est assez récent, parce que il y a un consortium qui s'occupe du comportement, qui s'est créé en 2010, donc c'est quand même pas si vieux que ça, mais enfin, ils ont commencé à faire des travaux qui sont particulièrement intéressants en termes de seuil auditif, en termes de modification de comportement. Et donc, on part des observations, c'est-à-dire par exemple, on diffuse des sondes sonar à des cétacés et on regarde comment ils vont se comporter. On l'a fait sur du cachalot, on l'a fait sur du globicéphale, on l'a fait sur des orques, par exemple. Et après, on note et on regarde quel est leur seuil de sensibilité. Évidemment, on n'est pas là pour les tuer, on est simplement là pour voir comment ils réagissent, c'est-à-dire comment ils vont modifier leur comportement. Et après, on fait le lien avec des échouages qui sont produits et dont on cherche les causes. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans les exercices de l'OTAN en 96, 98, 2000, avec des échouages de baleines à bec. Et donc, on a fait le lien directement entre les sonars militaires et ces échouages-là. On fait pareil pour d'autres raisons, comme l'utilisation d'airgun pour la géophysique ou la prospection pétrolière. On fait pareil lorsque maintenant c'est obligatoire, lorsqu'on veut construire des éoliennes en mer ou des hydroliennes, il y a forcément une mesure d'impact qui doit être mise en place en même temps, c'est-à-dire on observe les conditions dans lesquelles les cétacés sont à l'heure actuelle, et puis après on fait des estimations, des prédictions de ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir les protéger lorsque ces instruments seront en place.
Merci beaucoup Olivier Adam. Actualité cétacés chargée, puisqu'on peut signaler un cycle de conférences que vous organisez tous les mois à l'Aquarium de la Porte Dorée à Paris. Prochain invité, ce sera le 4 mars avec Christophe Guinet, qui reviendra sur les conséquences économiques et écologiques des interactions entre les orques et les cachalots. Et,
il a fait un travail justement qui est exceptionnel sur justement la déprédation des orques et des cachalots sur les palangres. Dans les passes, à creuser en l'occurrence. Et ça, c'est typiquement le travail intelligent qu'il faut faire, parce que les pêcheurs sont des gens intelligents. Et quand on fait des travaux scientifiques qui sont en lien avec les pêcheurs, nous, on ne dit pas qu'il faut arrêter la pêche, on dit qu'il faut l'adapter pour conserver et protéger les cétacés et protéger tous les océans, en fait. Hein, c'est le but de nos travaux.
Et puis un documentaire, Axel
Réalisé par Antonio Fischietti, qui vous a suivi à l'écoute des baleines autour de Madagascar. C'est à voir sur le site Universcience et c'est gratuit.
Voilà, et puis si vous êtes en Charente-Maritime ou ailleurs d'ailleurs et que vous trouvez une carcasse de cétacé, il y a un réseau à contacter. C'est le laboratoire Pélagis du CNRS au 05 46 44 99 10. Et le numéro de téléphone est en lien sur le site de La Tête au Carré. Merci beaucoup Olivier Adam, merci Hervé. On retrouve ces infos dans reporter.net. Et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le microbiote intestinal qui nous protège des méfaits de l'alcool. On sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on ignorait pourquoi certains buveurs excessifs développaient des maladies mortelles comme des cirrhoses ou des hépatites, alors que d'autres souffrent seulement de stéatose hépatique, une accumulation de graisse dans les cellules. Selon une publication de l'INRA, cette disparité serait due à la flore intestinale. En comparant les microbiotes de différents patients, les scientifiques ont remarqué que ceux des patients présentant ces maladies graves étaient sérieusement déséquilibrés, déséquilibre qui entraînerait la déficience d'une bactérie produisant un acide qui nous protège de la toxicité de l'alcool. Certaines fourmis semblent ne jamais vieillir. C'est l'étrange constat d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Boston et du CNRS. En s'intéressant à la Phaeidolae dendata, les chercheurs ont remarqué que les fourmis ouvrières de cette espèce ne présentent aucun signe de déclin physique avant l'âge. Ainsi, les vieilles ouvrières sont aussi, voire plus performantes que les plus jeunes jusqu'à leur mort, qui est subite et arrive sans le moindre signe annonciateur perçu par les scientifiques. Cette absence de vieillissement intrigue les chercheurs car c'est une véritable exception pour la famille des insectes. Et puis le Ice and Salt Challenge, un phénomène dangereux. Le challenge de la glace et du sel, c'est un défi qui se propage chez les jeunes et qui consiste à tenir le plus longtemps avec du sel recouvert d'un glaçon sur le bras ou la main, puis de mettre la vidéo sur Internet. Or, ce défi peut entraîner de sérieuses brûlures. En effet, le glaçon en contact avec le sel fond et surtout refroidit car le sel absorbe la chaleur du glaçon pour se dissoudre. La peau se retrouve alors en contact avec une eau liquide d'une température pouvant aller jusqu'à moins 20 degrés. Le risque d'engelure est d'autant plus risqué que le froid engourdit la zone exposée, atténuant la sensation de brûlure.